Imaginez-vous que vous êtes en train de regarder un artiste qui fait un dessin avec une toile d'un mètre plus ou moins, et il est en train de commencer le dessin et commence à jeter des couleurs, à jeter des noirs par ici, des bleus par là-bas, et commence à faire des traces, des coupes de pinceaux ici, là-bas. Après, il s'éloigne un peu, il regarde. Il voit la perspective, il s'approche et il continue à faire des traces. Mais lorsque vous êtes en train de regarder, vous ne comprenez rien parce qu'il n'y a aucun sens, il n'y a aucune figure, il n'y a rien. Ça semble tout aléatoire, sans ordre particulier. Et vous n'arrivez pas à comprendre quel est le dessin qu'il est en train de faire. Mais il continue à faire des traces de pinceaux, des couleurs par ici, par là. Et même quand il vient de finir, vous ne comprenez rien du tout. Qu'est-ce que vous êtes en train de dessiner? Ça, c'est tout aléatoire. Mais tout d'un coup, il prend la toile et il fait comme ça, et immédiatement, vous reconnaissez le visage de quelqu'un. Sais pas si vous avez vu ces sortes de speed painting, mais ça, c'est exactement ce qui se passe dans ces livres de Ruth que nous sommes en train de commencer aujourd'hui. Ruth est une histoire très courte, seulement chaque chapitre qu'on va faire dans une série de quelques semaines. Mais il est très intense et émouvant. Il y a des moments de souffrance intense, des moments d'incertitude, des moments de joie. Et les personnages font épreuve de résilience, de courage, d'amour, de fidélité et de bonté. Si on lit tous les récits, les chaque chapitre d'affilée, il peut sembler que l'auteur raconte une histoire, une séquence d'événements. Donc ici, c'est passé ça, après il y a telle décision, après c'est arrivé l'autre, et on peut risquer de voir les récits seulement d'un point de vue humain, de dire quelle mauvaise chance là-bas. Oh, quelle bonne chance dans ce côté, oh, quelle bonne décision ici. Mais ce qui est clair, c'est qu'une fois qu'il arrive à la fin du livre et comprend les visages, et on reconnaît les visages, petit spoiler, David et Jésus, alors on voit qu'il y a eu une main invisible qui était en train de guider toute cette séquence de casualités et des événements. La providence et la souveraineté de Dieu tout au long de cette histoire. Ça, c'est une constante qu'on peut voir dans ce livre. Le livre de Ruth aussi, vous voyez dans nos Bibles, il se trouve entre les Juges et entre le premier livre de l'époque des rois. Et c'est un livre qui marche aussi comme une transition. C'est une transition entre deux époques très importantes, l'époque des Juges et l'époque du roi. Et si on voit les premiers versets, donc on vient de lire aujourd'hui, c'était à l'époque des juges. Et si vous voulez avancer à la maison et vous voulez voir tout juste la fin, on voit que le regard nous amène vers l'époque des rois. D'ailleurs, exil et retour est un sujet récurrent dans les Écritures. Vous savez que le peuple d'Israël était exilé en Égypte. Après Moïse, Dieu par Moïse a agi la délivrance. Israël est exilé au désert aussi par la désobéissance. Il est exilé en Babylone et toujours ses patrons récurrents d'exil et retour est une constante. Et ici, dans ce livre, dans un sens, c'est la famille d'Élimélec qui fait un exil ailleurs et après fait un retour. Il fait un exil, comme nous allons voir, un exil pour chercher des repos, pour chercher de la sécurité. Ça tombe mal, et après il y a un retour dans le vrai repos et le vrai espoir. Et c'est pour ça que je trouve que le titre approprié pour ce livre, pour toutes les séries, et même spécifiquement pour aujourd'hui, c'est de l'exil à l'espoir, un chemin vers le repos. De l'exil à l'espoir, un chemin vers le repos. Et nous allons voir trois aspects très importants qu'ils ont mis en avant dans ce passage. D'abord, les premiers cinq versets, les répercussions d'une décision imprudente, comme vous avez dans le foyer si vous voulez le suivre. Deuxièmement, encore soumis à la souveraineté de Dieu, une référence directe à Naomi. Et troisièmement, la manifestation d'un corps renouvelé, une référence directe à Ruth. Et c'est ces premiers cinq versets, les répercussions d'une décision imprudente, ces premiers cinq versets qui étaient très, très chargés de sens. C'est très vraiment, très squat, l'introduction, c'est très petit, mais c'était néanmoins choquant pour un lecteur juif de l'époque. Il y a très peu de mots bien choisis pour refléter l'introduction et le contexte. Et de la même façon que si je commence un récit en disant « dans l'époque de la Covid », il faut rien ajouter d'autre, parce qu'évidemment, vous allez comprendre, et il y a beaucoup de pensées qui vont venir sur vous, et même des sentiments de la masque, même la douleur dans les oreilles, même l'isolation, la distance sociale, il y a beaucoup de concepts qui vont venir sur vous. De la même façon, ici, dans un lecteur juif, il y avait beaucoup de pensées et de contextes qui venaient sur tête. Il y a quatre mots principaux. La période du juge. Et si vous tombez la page seulement en arrière, et vous faites un peu de scroll si vous êtes dans les SM, dans Juges 21 à 25, on trouve la caractéristique la plus importante de cette période des juges. Ce n'est pas seulement une introduction à anodin, mais c'est une période marquée par l'absence de roi, l'absence d'autorité. C'était une période où chacun faisait ce qu'il trouvait bon. Il n'avait pas de morale, il avait une décadence spirituelle. Ça, c'est la période du juge. Et ça met le contexte dans le lecteur juif, et nous qui le connaissons maintenant, on comprend mieux le contexte. Le deuxième mot, c'est Elimelech, l'homme, le responsable de cette maison. Un homme qui veut dire littéralement « Dieu est mon roi ». Et c'est Elimelech, c'était Ephratien de Bethléem. Dire Ephratien de Bethléem, c'est une sorte de redondance, mais d'après les commentateurs, ici, c'est fait exprès. C'est comme dire un Bruxellois de Bruxelles, ou un Liégeois de Liège, vraiment quelqu'un de pur souche, de Bethléem. Et ça peut faire référence à quelqu'un qui avait un statut, à une position sociale accommodée. Et c'est Elimelech, part de Bethléem. Et ironiquement, Bethléem aussi, qui signifie littéralement maison de pain, n'est plus. Il n'y a plus de pain dans la maison de pain. Et c'est pour ça que le troisième mot, c'est famine. C'est la situation, crise, que Dieu permet. Parce que le territoire, la terre promise, qui devrait être une source de repos, et de sécurité et d'abondance, n'est plus. Dieu permet, sur ce contexte, cette période, une famine très, très sévère qui dure, on voit, presque 10 ans, jusqu'à ce que Naomi entend qu'il y a des pains. Dieu avait déjà averti les conséquences de la désobéissance dans l'ancienne alliance. Et souvent, dans cette période des juges, il y a des périodes cycliques où le peuple s'éloignait de Dieu. Et après, il y avait un juge qui revenait le cœur et attirait le cœur à Dieu. Ça se répète constamment dans ces périodes des juges. Mais Dieu l'avait déjà averti. Pour ceux qui prennent note, vous pouvez noter Deutéronome 28, 47. Il dit, Dieu, pour n'avoir pas au milieu de l'abondance générale servi à l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur, tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et des privations générales, les ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Souvent, la bénédiction était liée à l'obéissance et la détresse était liée à la désobéissance. Mais Dieu ne voulait pas détruire son peuple. Cette période, les buts étaient d'un côté punir la désobéissance et l'éloignement, mais l'autre c'était promouvoir une vraie repentance. Et face à cette situation, qu'est-ce qu'il fait, Elimelech? Quelle est sa décision? Il décide de partir de Bethléem. Il décide de chercher protection ailleurs. Mais il ne choisit pas une ville à hasard. Il choisit la ville de Moab, et c'est notre mot, le dernier et quatrième mot principal sur cette introduction, la ville de Moab. Moab trouve son origine dans un fils de Lot, quand sa fille couche avec lui, quand il était ivre, et son fils, qui s'appelle précisément Moab, donc devient la première personne de cette peuple. Des années plus tard, Moab, le roi de Moab, essaye de maudire quand le peuple était en train d'entrer la terre promise, dont nombre vendu. Le roi de Moab contacte Balaam pour maudire le peuple. Et les choses sont pires, jusqu'à ce que Dieu même bannit soit les Ammonites et les Moabites de rentrer dans l'assemblée de Dieu, même pour 10 générations. Ça, c'est la situation. Ce n'était pas une ville à hasard, c'était Moab, l'ennemi officiel du peuple d'Israël. Ça, c'est la décision d'Élimélec. Mais ne soyons pas trop vite à juger aussi cette décision. Une chose qui m'a étonné, c'est que le texte ne se prononce pas par rapport à la décision. Et les conditions étaient vraiment difficiles. Le choix d'Élimélec était entre la vie et la mort. Il devrait pouvoir pour sa famille. Et les noms qu'on a vus de ces deux fils, Machlon et Kiljon, d'après les experts qui comprennent les sens original, il fait référence à des maladies, à des faiblesses. Donc il a des indices pour comprendre qu'Élimélec était en train de faire un choix difficile. Il devait pouvoir pour sa famille. Ce n'était pas comme la décision, si vous vous souvenez, de Lot. C'était une décision de confort. Ah, ça me semble plus approprié pour moi. Mais la décision d'Élimélec est une décision désespérée. Et en plus, d'après le verbe qui s'utilise ici, on voit aussi que c'était un déménagement temporaire. On voit vraiment que l'intention d'Élimélec, ce n'était pas déménager définitivement et abandonner le peuple. C'était quelque chose, un soulagement temporaire pour voir pour sa famille. Aussi, on voit qu'il veut rester dans les champs, mais pas dans la ville. Il ne voulait pas devenir un citoyen de Moab. Le texte, même quand il meurt, ne se prononce pas par rapport à sa culpabilité. Donc, ce n'est pas le centre. Et c'est pour ça que ça me fait du bien de voir que l'accent, ce n'est pas juger cette décision. Mais ce qui est évident, c'est que la décision finit très mal. C'est une décision tout à fait imprudente. Et les conséquences sont catastrophiques. Après 10 ans, il y a 3 femmes laissées toutes seules, Naomi et ses 2 belles-filles. Et le bilan est vraiment tragique. Et c'est ici où vraiment commence l'histoire. L'histoire de Ruth, c'est l'histoire de ces principalement 2 femmes, Naomi et Ruth. Et plus spécifiquement, si vous faites attention, c'est l'histoire de Naomi. Parce que le livre commence avec sa verset, avec sa crise, sa détresse, sa angoisse, et finit par sa joie. Naomi est le protagoniste de cette histoire. Après avoir vu ces décisions qui amènent à la crise, ça nous amène directement au 2e point. Parce que l'auteur, après ces 5 versets, bascule l'attention et Élimélec n'est plus le protagoniste. Et toute l'attention et toute la lumière vont vers Naomi. Et Naomi était privée de ses maris et de ses 2 fils. Et s'il y a une caractéristique qu'on doit souligner aujourd'hui sur le comportement de Naomi dans ce premier chapitre, c'est son cœur soumise à la souveraineté de Dieu. Un cœur complètement soumis à la souveraineté de Dieu. Que faire quand tu as tout perdu? Mari, enfant, illusion, espoir, projet de futur, la joie, nous pouvons très difficilement comprendre la sensation de vide de Naomi. Tout s'était cassé dans son intérieur. Plus rien ne vaut le coup. En plus, il y a un aspect matériel qui, aujourd'hui, on ne peut pas comprendre. Une femme ne pouvait pas subsister toute seule à cette époque-là. Et en plus de ça, il y avait une souffrance spirituelle. Dieu m'a frappé. Dans une sorte, je me sens comme coupable. Telle était l'amertume de Naomi, qu'on voit à la fin, que quand il arrive au peuple, verset 20, il dit « Ne m'appelez plus Naomi », qui veut dire « beauté, douceur, appelez-moi amère ». Mon identité a changé, je ne suis plus la même qu'avant. La vie ne lui était plus agréable. Mais ce qui est révélatrice dans ce texte, ce n'est pas ces souffrances qu'on difficilement arrive à comprendre, mais sa façon de réagir à ces souffrances. C'est ça qu'on peut voir et constater, et nous pouvons attirer des leçons importantes pour nous. Naomi avait un cœur complètement soumis à la souveraineté de Dieu. Et comment nous voyons cela ? Vitement, en trois aspects, sa réaction, sa bonté et sa foi soumise. Et pourquoi sa réaction ? Parce qu'immédiatement, dans le verset 7, le texte dit qu'elle se leva et s'est mise en route pour retourner à Bethléem. L'essence de ces vers peut signifier soit littéralement qu'elle se lève et elle se met en route pour retourner, mais aussi l'essence dont lieu a un sens plus abstract. Elle se retourne en sorte de restauration. Elle se retourne pour défaire les conséquences d'un mauvais choix ou d'un péché. Les deux sens sont valables ici dans ce texte. Elle surmonte la honte, elle surmonte la culpabilité qu'on voit qu'elle sentait, et elle décide de s'approcher à nouveau du peuple de Dieu, après 10 ans. Nous voyons ici que Naomi avait le cœur brisé, mais pas endurci. La bonne chose qu'on voit de Naomi ici, c'est pas qu'elle continue pas à s'éloigner plus en plus à cause de la honte et la culpabilité. Sa bonne réaction, sa bonne décision, c'est de dire « je veux retourner, je veux défaire toute cette chaîne de mauvais choix. Je ne sais pas pourquoi ça arrivait, mais je sais qu'à partir de maintenant, je dois retourner. » Elle prend une décision sage qui contraste beaucoup avec la décision imprudente précédente, il y a 10 ans. Sa réaction, mais aussi sa bonté. Jusqu'à 3 fois, si vous comptez sur le texte, jusqu'à 3 fois, elle essaie de dissuader Orpa et Ruth de l'accompagner. Elles étaient, Orpa et Ruth, très attachées par son lien de mariage. Naomi est devenue déjà la famille formale. Elle ne pouvait pas, les deux, ne pouvait pas l'abandonner dans les choix. C'est pour ça que Naomi essaie de les dissuader. Parce que Naomi pense à ses deux belles filles plutôt qu'à elle-même. Israël n'allait pas bien recevoir ces deux filles moabites. Et Naomi ne pouvait pas garantir son avenir non plus en Israël. Elle ne pouvait pas garantir non plus son propre avenir. C'est pour ça qu'elle insiste pour qu'elle reste à Moab. Et quand on lit ces bénédictions, versets 8 et 9, que l'Éternel agisse avec miséricorde, que l'Éternel soit bon avec vous. On voit que ce sont des bénédictions sincères. Ces réactions d'insister à leur départ allaient contre Naomi, qui allait rester encore plus seule qu'avant. Naomi avait encore qui aimait. Et elle prie que Dieu bénisse ses belles filles. Naomi agit avec bonté, car elle continue à croire dans un Dieu bon. Et par ces mots, Naomi ne doute jamais de la bonté de Dieu, ce qui est un risque lorsqu'on passe par moments de détresse. Même si elle ne comprend pas la façon d'agir, elle prie que Dieu agisse avec bonté dans la vie de cette fille. Mais troisièmement, de ces réactions d'un homme, s'il y a une chose qui est frappant encore plus, c'est sa soumission totale face à ce Dieu souverain. Dans toutes ces interventions, on voit que se découle une pensée qui regarde un Dieu comme un Dieu souverain qui est présent. Aucun mot de rébellion jamais sort de la bouche de Naomi. Au contraire, si vous vous souvenez de la femme de Job, elle reste soumise à ce Dieu souverain. Le Dieu de Naomi est un Dieu vraiment grand, est un Dieu qui est en contrôle de tout. Comment nous voyons ça? Elle est en train de dissuader que Ruth et Orpa les accompagnent. Elle est en train de dire, retournez chez Moab, mais que Dieu vous fait de la grâce là-bas et que Dieu agisse avec bonté et vous donne des repos là-bas. La pensée de l'époque, c'était que chaque région avait ses propres dieux. Mais Naomi, il a une vision encore plus grande. Dieu est Dieu tout-puissant. Même si vous retournez à Moab, mon Dieu, l'Éternel, a le pouvoir de vous bénir là-bas. Parce qu'il est le vrai Dieu et pas le feu Dieu dont Moab, les Moabites croyaient. C'est Dieu de toute la terre, même de Moab. Et c'est sûrement, on voit dans ce premier chapitre, que c'est cette façon de comprendre et de voir Dieu en foi qui a fortement touché Ruth. Et le fait que Ruth, après nous allons voir, prenne la décision de s'attacher à Naomi, est aussi une évidence que cette famille, et Naomi spécialement, vivait une foi vive et authentique. Ça, c'est ce qui a touché fortement Ruth. Et sinon, comment nous pouvons comprendre qu'une femme moabite avait aucun accès, aucun contact avec les peuples hébreux, soit touchée de cette façon? Dieu certainement a touché le cœur de Ruth par la foi de Naomi. Une autre évidence de ce cœur soumis à la volonté de Dieu, c'est dans les versets 20 et 21, quand Naomi utilise un mot spécial pour se référer à Dieu. Avant, jusqu'ici, c'était l'Éternel. Mais ici, mentionne le Dieu tout-puissant. Dans l'original, c'est un nom différent pour faire référence, et spécialement sur cette caractéristique, que Dieu est en contrôle absolument de tout. Et il fait et il permet ce qu'il veut. C'est un mot qui apparaît 48 fois dans l'Ancien Testament, en Genèse, quand Dieu s'apparaît à Abraham et fait son alliance avec lui, mais qui apparaît beaucoup de fois dans le livre de Job, qui est un livre par excellence qui parle de la souffrance. Et c'est Job aussi qui parle. Il dit, quand sa femme dit, ça suffit, maudit Dieu et meurt. Et Job répond, tu parles comme une folle. Nous accepterons le bien de la part de Dieu, mais nous n'accepterons pas aussi le mal. Cette vision en foi d'un Dieu souverain, même si on ne comprend pas pourquoi les choses arrivent. Ça, c'est la vision de Naomi. Et quand un petit commentaire dans le verset 21, quand il dit que le Tout-Puissant a provoqué, il ne parle pas jamais d'un Dieu cruel, mais un Dieu souverain qui a la liberté de faire et de permettre ce qu'il veut, tout en gardant sa bonté. Ça, c'est ce qui est remarquable et à la fois complexe pour nous, mais utile de nous rappeler. Le corps de Naomi était encore soumis à la souveraineté de Dieu dans les moments plus durs de sa vie. Et ça nous amène aussi, troisièmement, à l'autre aspect important de ce passage, la manifestation d'un cœur renouvelé, qui fait directement référence à Ruth. Nous ne pouvons pas comprendre complètement la réaction et la décision de Ruth sans vitement considérer rapidement la réaction de Orpa. Après la dissuasion de Naomi, deux fois avec les deux belles filles, Orpa prend la décision la plus logique et raisonnable. Soyons honnêtes, c'était la réaction la plus raisonnable vu les conditions. Elle cherchait Orpa à un avenir favorable pour elle. Et avec Naomi, les chances sont presque inexistantes. Au début, elle hésite, c'est vrai. Elle pleure, elle hésite. Mais à la fin, elle décide de retourner chez les siens. Parce que la sécurité, sa sécurité physique, pouvait être même en danger. Il faut seulement lire, si vous voulez, à la maison, Juges 19, et on voit vraiment le maximum de la cruauté que le peuple hébreu pouvait arriver, où il fut et même tué. C'était une période d'instabilité. Il n'y avait pas de roi. Chacun faisait ce qu'il trouvait bon. Sa sécurité n'était pas assurée. Et Orpa prend la décision la plus raisonnable, dans un point de vue humain. Elle prend la meilleure décision. Et en Orpa, nous voyons notre capacité aussi de rater une grande opportunité. Elle cherche à se réfugier et trouver le repos dans la fausse sécurité de Conou. Elle retourne chez les siens. Mais ça, ce n'est pas la même chose pour Ruth. Accompagner Naomi était un acte presque, on peut dire, suicidaire. C'était un acte vraiment courageux, mais au-delà de courageux, téméraire. Moabite, son mari, son beau-père qui la protège, son famille, son salaire, une ennemie officielle d'Israël, quelle garantie avait-elle? Aucune. Elle s'exposa complètement à l'abus, à la méchanceté, à une vie misérable, jusqu'à la mort. Mais les versets clés pour comprendre cette décision sont les 15 et les 16. Lors de son troisième essai de dissuader Naomi, quand elle est toute seule avec Ruth, il dit, tu vois, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne chez toi comme elle. Et cette dernière fois que Naomi insiste est plus profonde qu'elle ne l'est paraît. Orpa est retournée vers son peuple et vers ses dieux, vers sa façon de vivre avant. Et ici, Ruth est confrontée pas seulement à une décision, mais il est confronté plus profondément à son identité. Il ne s'agit pas seulement d'être fidèle à sa belle-mère, ni de ressentir pitié pour une femme âgée. Il avait beaucoup à perdre et rien à gagner. La vraie question, d'après les passages, était « Ruth, qui es-tu maintenant? Qu'est-ce que tu crois? Où est ton cœur vraiment, Ruth? Tu veux servir qui maintenant ?» Et après 10 ans d'habiter ensemble, on voit que Naomi avait donné un témoignage puissante, même parmi sa détresse. Ruth avait nécessairement appris qui était Dieu. Elle avait vu la façon dont la famille a vécu, comme Naomi a continué après la mort de son mari. Elle a dû voir la foi soumise de Naomi en temps d'angoisse. Et Ruth répondit, « Ne me pousse pas à te laisser, à repartir loin de toi, où tu régirais. » Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Cette décision, ce n'est pas seulement une décision, c'est un serment. La formule qui s'utilise dans le texte, il prend une formule d'un serment. Va au-delà de dire oh, je vais faire comme ça. Non, c'est un serment. Et ça constitue une rupture totale avec ce que Ruth avait vécu avant. Avec la culture précédente, avec sa façon de comprendre le monde, avec son identité. C'était une rupture avec l'idolâtrie. Ruth avait, comme j'ai dit, beaucoup à perdre et absolument rien à gagner. Comment on explique cette décision? Cette décision ne s'explique pas seulement par la fidélité à une femme âgée, ni par la fidélité à un mari mort. Ce qui avait été au début un engagement familial et social, maintenant c'est un engagement personnel. Ruth avait connu vraiment le Dieu vivant. Et elle avait une nouvelle identité. Elle avait fait une rupture totale et elle s'est confiée à partir. Elle ne peut pas retourner. Elle ne peut pas voir les choses différemment. Elle doit absolument servir de tout son cœur, pas obligé. Mais il veut, il ne peut pas aller en arrière. Il confie complètement son avenir à ce Dieu tout-puissant qu'il a vu en Naomi. C'est pour ça que Ruth est la manifestation visible d'un cœur renouvelé. Et on voit ça par sa réaction, par ses mots et par son engagement jusqu'à la fin. Et ça, c'est exactement la même pensée que l'apôtre Pierre, dont l'apôtre Pierre écrit. Enfants obéissants, ne vous conformez pas au désir que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. C'est ça exactement la façon de Ruth. Je ne peux plus voir le monde. Je ne peux plus faire comme avant. Je veux servir. Je n'ai pas autre choix, mais je le fais volontairement. Je veux être engagé avec ce Dieu vivant. Ça, c'est l'exemple de la manifestation encore renouvelée. Trois aspects aujourd'hui. Mais quelle conclusion nous pouvons attirer de toute cette histoire, de ce premier chapitre de Ruth? Il y en a deux principales. Dieu est encore aujourd'hui le Dieu tout-puissant. Dieu aujourd'hui est encore le Dieu tout-puissant. Notre Dieu est le même Dieu tout-puissant des livres de Ruth, qui contrôle absolument tout. Et de la même façon que dans les livres de Ruth, il y a une séquence des événements, des casualités, des décisions, mais il y a toujours une main souveraine qui guide tout vers un but précis. Ça, c'est exactement la même chose pour notre vie. Dieu contrôle tout. Et c'est l'apôtre Pierre que nous avons lu juste avant dans la présidence qui nous exhorte. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Déchargez-vous sur lui tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. C'est un Dieu absolument souverain, mais qui prend soin de chaque détail, qui prend soin de toi, qui n'est pas ignorant de toute la détresse que tu es en train de vivre. Il n'ignore pas aucun de tes pensées. Il n'ignore pas aucune de tes larmes. Dieu a toujours le contrôle. Et plus importantement, Dieu est toujours bon. Jamais il va laisser permettre agir d'une façon que ce soit cruelle. Et ça, c'est les attaques que parfois on reçoit dans un moment d'angoisse. Satan vient à chipoter. Dieu est encore bon dans ta vie? Dieu agit, il crée, permet des événements, des casualités pour prendre soin de chacun de nous. Et il touche aussi les cœurs autour de nous pour nous faire du bien, pour faire du bien à son peuple. Comme Ruth avec Naomi, comme Naomi avec Ruth, et plus tard, spoiler, avec Boaz qui va apparaître aussi. Ce que nous apprenons aujourd'hui, c'est à rester toujours soumis à la main souveraine de Dieu, même parmi l'incompréhension, même parmi l'angoisse, des moments difficiles. Dieu a tout le pouvoir pour changer notre situation de façon inattendue. Et nous allons voir dans le livre que ça arrive. Il a le pouvoir pour changer. Et peut-être notre situation change d'après nos désirs. Mais peut-être pas. En tout cas, il reste le souverain. Mais ce que nous allons recevoir certainement, c'est la paix et l'assurance que lui est en tout contrôle, qu'ils ne sont pas soumis à l'hasard, des vents aux différents changes de direction. Et son esprit nous affirmera notre cœur et nous rappellera que Dieu est toujours bon. Dieu est encore aujourd'hui le Dieu tout-puissant. Mais la deuxième chose qu'on peut attirer de ce passage aujourd'hui, c'est que se réfugier en Dieu, c'est la seule option. Se réfugier en Dieu, c'est la seule option. Comme on a dit au début, le livre de Ruth, c'est l'histoire de l'exil à l'espoir, un chemin vers le repos de Dieu. Mais c'est aussi notre histoire personnelle. Chacun de nous cherche le repos. Chacun de nous cherche la sécurité économique, la santé, le confort, l'avenir. C'est naturel et c'est humain. Il n'y a rien de mal. Mais le vrai repos va au-delà de cette vie. Le vrai repos, c'est un repos éternel. C'est l'espoir de vaincre la mort. La mort, cet ennemi par excellence de toute l'humanité. Le vrai repos de Dieu n'est pas seulement pour cette vie. Et je ne sais pas combien il y a ici d'entre vous que peut-être vous identifiez plutôt avec les belles filles de Naomi. Peut-être que tu es un observateur un certain temps et tu continues à recevoir les témoignages des croyants fidèles comme Naomi. Peut-être que tu es un enfant ou un jeune adulte ou un adulte et tu viens par engagement familial, par habitude, ou que tu es ici par curiosité, ou tu es ici et tu cherches un vrai repos, parce que jusqu'à présent, tu ne l'as pas trouvé. Quoi qu'il en soit, apprends des routes. Il avait compris que seulement en Dieu, nous trouvons notre repos, et la paix et l'assurance, car se réfugier en Dieu, c'est la seule option. Et ce refuge s'obtient à la lumière du Nouveau Testament, grâce à Jésus, qui est précisément le descendant de Ruth. Petit spoiler à la fin, désolé pour ça. Mais c'est descendant de Ruth, on verra que c'est David et plus tard Jésus. C'est Jésus et le cadeau de Dieu. C'est le cadeau de Dieu pour obtenir cette paix avec lui et pour obtenir le repos. Parce que lui est le repos. Et je vais finir, que la parole finisse aujourd'hui. La prédication au Matthieu 11, 28. C'est des mots de Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Beaucoup ont vu cette opportunité et ils ont tourné comme Orpa. Mais beaucoup l'ont accepté. Ils ont fait une rupture totale avec la façon dont ils comprenaient le monde. Et ils ont s'attaché à vie avec ces dieux vivants, les dieux tout-puissants de Naomi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen.